Au lendemain des émeutes et après la dissolution des ligues fascistes, je conservais de fidèles adversaires à gauche et je n'avais désormais que des ennemis à droite. Les cheminées des aciéries s'éteignent. C'est grave pour un
bonsoir, pays. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ce Canu Info de ce jeudi 22 octobre. Alors, le monde va bien, hein, vous vous en êtes aperçu. Guerre de territoire, guerre de religion, répression politique, répression syndicale, sexisme, homophobie, racisme. Et nous en passons. Alors, dans tout ça, vous allez me dire, c'est pas drôle. Et oui, parfois, nos Canu Info sont pas drôles. C'est comme ça, parfois on a aussi des petites histoires sur des résistances et sur des luttes. Ce soir, on va évidemment vous parler d'Israël et de Palestine. La situation ne s'arrange pas vraiment. On vous parlera du fromage à base de lait en poudre et de l'Italie. On parlera de quelques actualités qui concernent la Chine. Nous parlerons d'une révolte à la fac en Afrique du Sud, des fachos, du capitalisme avec Servier, des profiteurs avec Bolloré, et puis nous parlons du Conseil d'État, que dire d'autre, de l'exploitation animale aussi peut-être, et peut-être aussi d'une BD même.
Alors on va ouvrir avec un petit bout de la situation israélo-palestinienne avec les news du jour. Et d'abord un bilan qui nous vient de la Banque mondiale. Donc on va parler plutôt d'économie plutôt que de parler des problèmes et des violences, on va dire, israélo-palestiniennes. Et ça semble renforcer l'idée que le boycott des produits israéliens n'existe pas que chez nous. Il existe aussi directement sur place, c'est-à-dire en Cisjordanie et dans la Banque de Gaza. Hein, puisqu'il y a une baisse importante des importations venant d'Israël arrivant en Palestine, on va dire la Palestine, c'est une baisse de 24% au premier trimestre 2015. Alors c'est un rapport de la Banque mondiale, donc un organisme libéral mais très sérieux, qui explique cette baisse par la conséquence d'une activité économique ralentie, ça c'est évident hein, quand il y a des tensions, mais également d'une tendance chez les consommateurs palestiniens à remplacer les produits importés d'Israël par des produits importés venant d'autres pays. Donc une vraie mise en place d'un boycott des produits israéliens par les Palestiniens eux-mêmes, et ça paraît logique, mais jusqu'à maintenant c'était pas si évident que ça. Alors pourquoi c'est pas si évident que ça? Parce qu'il faut avoir en tête que la pauvre Cisjordanie, hein, qui sont des petits îlots de liberté palestinienne au milieu d'une occupation assez généralisée, ils ont assez peu de marge de manœuvre pour importer des produits, et c'est bien Israël qui se sert, qui écoule ses produits dans les territoires occupés. Elle ne laisse pas vraiment le choix aux Palestiniens. Et vraisemblablement, dès qu'il y a le choix, de plus en plus en tout cas, les Palestiniens décident d'importer ou de prendre des produits qui viennent d'ailleurs et des produits locaux, puisqu'il y a une augmentation des produits locaux. Alors ça se voit par en fait une baisse du déficit palestinien, enfin de l'autorité palestinienne on va dire, et de la Cisjordanie, les calculs sont faits essentiellement en Cisjordanie, une baisse du déficit de 6% qui est liée à ça, à la consommation plus de produits locaux et peut-être moins de consommation tout court aussi avec les problématiques qu'on connaît sur les situations liées aux violences de la part notamment des colons ou des soldats israéliens. Alors il y a tout un tas de chiffres qui sont donnés par la Banque mondiale, on parle en milliards, hein. Mais pour avoir un ordre d'idée, quand même, les 3,4 milliards de marchandises étaient vendues en 2013 à la Cisjordanie et à la bande de Gaza par l'État et les entreprises israéliennes. Aujourd'hui, en 2014, on était tombé à 2,9 milliards et aujourd'hui, on est encore descendu en dessous. Donc, même si le marché reste important, les Israéliens vont peut-être commencer à se poser des questions, en tout cas l'économie israélienne et peut-être les entreprises et les patrons, sur l'intérêt à long terme d'avoir des situations tendues avec les Palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza, puisqu'ils ont tout à perdre. Donc on rappelle qu'ils ont aussi à perdre avec le boycott international, mais qui n'est pas si efficace que ça malheureusement, hein. Mais voilà, il y a un boycott local qui pourrait être plus fort. Alors la Banque mondiale détaille plein de choses, dit entre autres que si Israël lève ses restrictions sur les déplacements des Palestiniens et de leurs marchandises, ça permettrait à l'économie palestinienne de redémarrer. Ils expliquent aussi que dans la bande de Gaza c'est une catastrophe, hein, 40% de chômage, enfin, des trucs horribles qu'on connaît, mais eux ils abordent ça sous l'angle économique et ils disent ben voilà, faut qu'Israël ouvre les frontières si on veut que l'économie redémarre, et ils vont jusqu'à dire mais ça peut exploser à tout moment à cause des problèmes économiques qui sont liés au blocus israélien. Alors c'est le cas de la bande de Gaza, mais c'est aussi le cas en Cisjordanie, hein, où la situation est, même si elle est bien moins pire, elle est pas forcément idyllique non plus. Donc c'est voilà un rapport qui est plutôt intéressant de la Banque mondiale, même si on notera que la Banque mondiale ne parle jamais d'occupation, ne parle jamais de l'armée, mais des forces de sécurité. Enfin, vous voyez, tout un discours un peu gentillet de la part de la Banque mondiale qui regarde que l'économie et qui veut pas, surtout pas, se mêler de politique. Donc voilà. Alors, je veux revenir aussi sur le vote à l'UNESCO qui a eu lieu et qui a fait polémique, donc beaucoup en Israël. Il faut dire que le vote est fait pour faire polémique. Il faut en avoir conscience. Donc, c'est un vote qui a eu lieu hier. C'est un certain nombre de pays arabes qui ont proposé donc une résolution aux 58 membres du Conseil exécutif de l'UNESCO. Hein, donc, c'est une partie de l'ONU seulement, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Donc le texte a été voté, 26 voix en sa faveur. Les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la République tchèque, l'Estonie se sont opposés, sont les 6 pays qui sont opposés. Et 24 autres pays se sont abstenus. Quel courage, n'est-ce pas? Dont la France, qui fait preuve de non-courage. Alors il faut savoir quand même que cette résolution, elle était problématique pour plein de choses. Elle, même si elle condamnait, donc je cite... fermement les agressions israéliennes et les mesures illégales limitant la liberté de culte et l'accès des musulmans au site sacré de la mosquée Al-Aqsa. Il y avait aussi dedans, notamment le bout du mur des lamentations qui était dans la résolution et qui rappelait et qui disait que ce bout fait partie de l'esplanade des mosquées d'Al-Aqsa et donc doit être un truc musulman et pas appartenir aux juifs. Enfin, donc ça a été enlevé. La polémique, c'est que finalement, même si les Israéliens et Netanyahou en premier ont eu tort de faire monter autant la sauce que ça sur cette polémique en disant que c'était une tentative honteuse et trompeuse de réécrire l'histoire. Alors Delphine en parlera tout à l'heure, mais lui aussi il a tenté de réécrire l'histoire. Notamment le centre aussi Simon Wiesenthal aux États-Unis qui a dit que il était content finalement que cette mesure, cette partie de la résolution qui parlait là de ce territoire au bout du mur des lamentations ait pas été inclus dedans. Mais ça rappelle quand même un truc, c'est que c'est pas une guerre de religion au départ, c'est une guerre de territoire. On veut et une guerre ethnique, hein, la religion sert de prétexte à tout ça puisque c'est à travers la religion et la querelle autour des lieux saints de l'islam et du judaïsme, des lieux qui sont pas saints, des lieux qui sont considérés saints par l'islam et le judaïsme, que cette bataille-là est instrumentalisée par toutes les parties et que on a ces conflits et qui rappellent encore et toujours, hein, parce que ça fait un moment qu'on a des conflits autour de ces pseudo-lieux saints, que la religion continue encore et toujours de tuer au XXIe siècle et d'être instrumentalisée. Voilà. Il n'y a pas de solution vraiment facile, si ce n'est de faire que Jérusalem sorte finalement et de la Palestine et d'Israël. Alors, soit ça devient la capitale des deux entités, hein, ce qui semble mal parti, soit ce soit la capitale de personne et que ça soit une cité plutôt internationale pour gérer un peu les problèmes religieux des trois religions monothéistes qui se battent des pseudo-lieux sacrés, enfin qui considèrent chacun comme sacré mais les autres ne considèrent pas ça comme sacré. Du coup, le conflit n'a pas de résolution possible sans intervention internationale. Alors, on en a la preuve depuis un certain nombre d'années avec ce conflit très très fort. Et puis pour terminer, visite de John Kerry, donc le secrétaire d'État américain, qui a rencontré Netanyahou, qui va rencontrer Mahmoud Abbas et le roi Abdallah de Jordanie. Alors, le roi Abdallah de Jordanie, il est partie prenante du conflit sur la mosquée Al-Aqsa, hein, puisqu'officiellement, c'est la Jordanie qui gère l'esplanade des mosquées et la mosquée Al-Aqsa. Kerry va les rencontrer. Il a déjà rencontré Netanyahou. Il est sorti avec un optimisme prudent, c'est sa phrase. Je ne sais pas où il peut être optimiste avec Netanyahou. En tout cas, oui, il faut être prudent. En tout cas, si on fait le bilan, aujourd'hui, a priori, on est à peu près à une cinquantaine de Palestiniens tués. Et j'ai perdu le nombre d'Israéliens. On est 8 juifs israéliens tués dans la dernière vague d'affrontements qui date de quelques semaines autour de ces problèmes de sites religieux et soi-disant sacrés.
Alors moi, je voudrais revenir cette semaine sur la dernière provocation de M. Netanyahou. Il n'y est encore une fois pas allé doucement. C'était mardi, devant les délégués du 37e Congrès juif mondial à Jérusalem. Il a prononcé un discours. Et dans ce discours, il a affirmé que Hitler n'avait pas vraiment l'intention d'anéantir les juifs, mais qu'il avait d'abord cherché simplement à les expulser d'Allemagne et d'Europe. Donc, selon ce Premier ministre, Hitler a changé d'avis après une rencontre avec Al-Husseini, Mufti de Jérusalem, lors d'une rencontre à Berlin fin 1941. Donc, l'idée de M. Netanyahou, c'est que Hitler a dit « j'ai un problème », qu'on lui a répondu « ah, mais il faut les brûler », et que Hitler a donc répondu « c'est une bonne idée, j'y avais pas pensé ».
Donc voilà Netanyahou ouvertement révisionniste, on peut le dire sur l'histoire.
Ouais, alors je vais même vous citer exactement son propos. Vous allez voir, c'est un peu comme au théâtre, hein, c'est une petite scénette, un petit peu un jeu de rôle. Il déclare, Hitler ne voulait pas exterminer les juifs à cette époque, il voulait expulser les juifs. Et Haj Amin Al-Husseini est allé voir Hitler et lui a dit, si vous les expulsez, ils vont tous venir ici. Alors, que devrais-je faire d'eux? A demandé Hitler. Brûlez-les, lui a-t-il répondu. C'est la déclaration du Premier ministre.
Alors c'est vrai que le grand moufti de Jérusalem jouait pas le jeu pacifique avec les juifs hein, qui étaient implantés.
Non, il a soutenu Hitler, il faut oui. être très clair, alors, il faut c'est un nationaliste.
Tout à fait, il faut rappeler quand même que dans son soutien à Hitler, il y a une idée qu'il fallait se débarrasser des juifs, mais c'était pas son problème au grand moufti de Jérusalem. Le problème du grand moufti de Jérusalem, c'était l'occupation anglaise. Et donc l'idée de l'alliance avec Hitler, c'est parce que Hitler était en guerre contre les Anglais et les Européens globalement, puisque les Français étaient intervenait aussi dans la région, et que c'est une alliance de mon ennemi, enfin on s'allie toujours à l'ennemi de son ennemi. C'est ça le premier truc. Et on rappellera qu'effectivement, les Juifs étaient, même s'ils ne les adoraient pas... Et
il est quand même connu aussi pour voilà, sa haine,
pour
hein,
ses
propos
antisémites, mais ce n'était pas sa première préoccupation. Alors ça ne le défend pas de tout ce qu'il a pu dire et tout ce qu'il a pu faire, hein, c'est quelqu'un de pas respectable du tout, mais oser dire que Hitler ne serait pas responsable, puisque finalement c'est ça, de l'assassinat et de la volonté d'exterminer les Juifs d'Europe, c'est quand même très très fort et c'est quand même très mensonger. D'ailleurs...
Et c'est une grosse connerie.
Oui, c'est une grosse connerie. Et ça a été repris par des sites néo-nazis de partout, ouais. hein, parce que les sites néo-nazis disent « Regardez, c'est pas la faute d'Hitler, on y est pour rien. »
Sauf que c'est une grosse connerie historique, tout simplement, parce que Al-Husseini et Hitler se sont rencontrés le 28 novembre 1941 et que Hitler a donné les ordres pour la solution finale bien avant, c'était en juillet. Et puis dans ses discours des 39, hein, on entend sa haine et sa volonté de détruire les Juifs. Donc historiquement déjà, c'est complètement stupide, c'est complètement crétin, c'est complètement débile. Et puis surtout, ça lui a amené un retour de bâton à la fois politique, médiatique, assez important. Moi, j'ai lu les mots de choquant, scandaleux, j'ai lu un manque de respect pour les victimes de la Shoah, j'ai lu populiste, j'ai lu négationniste. Donc il y a eu quand même une belle vague hein, contre lui. Par exemple, ce qui est drôle, c'est qu'il n'avait pas vraiment imaginé que même son propre camp puisse réagir avec violence. C'est le cas d'un de ses ministres, le ministre de la Défense, Moshe Yalon, qui a dit que c'était absurde. Hein, il y a eu évidemment les réactions de M. Herzog, le chef de l'opposition israélienne. Et puis moi, l'intervention que j'ai, je dois le dire, préférée, c'est celle de Mme Gallon, la chef du parti Meretz, hein, parti de gauche. Je vais donc vous la lire. Peut-être devrions-nous exhumer les 33 771 juifs assassinés à Babi Yar en septembre 41, deux mois avant la rencontre entre le Moufti et Hitler, et leur faire savoir que les nazis n'avaient pas l'intention de les exterminer. Peut-être que Netanyahou le dira à mes parents assassinés par les nazis en Lituanie, avec près de 200 000 membres de la communauté juive là-bas, bien avant que le Moufti et Hitler ne se soit rencontré. Oui, il y a eu des... Vraiment, il s'est fait rentrer dedans. Hein, c'est pas juste quelques interventions. Il y a eu aussi le parti, la liste arabe unie qui a accusé M. Netanyahou de déformer l'histoire afin d'inciter à la haine. Eric Hatt, le secrétaire général de l'OLP, a déclaré que Netanyahou déteste tellement les Palestiniens qu'il est prêt à absoudre Hitler pour l'assassinat de 6 millions de Juifs.
Donc, ce qu'il a voulu faire, c'est quand même énorme ce qu'il fait. Quoi.
Non, mais il y a de la réaction en face, c'est ça aussi que je veux dire. Hein, c'est que... sa provocation, elle lui a amené quand même de belles réactions. Alors, hier après-midi, il a communiqué, M. Netanyahou, et il a affirmé que ses propos avaient été mal interprétés. Non, rigole pas, ouais. C'est ce qu'il a dit. Alors, il a dit, oui, effectivement, Hitler est responsable de l'extermination de 6 millions de juifs européens. Personne ne le met en doute, a-t-il déclaré. Mais, ah bah ouais.
Il y a un mais.
Ouais. Nous ne devons pas ignorer qui était parmi ceux qui l'ont encouragé à adopter la solution finale. Plaf, il remet une couche. Toujours historiquement pas juste, hein. Alors, ce qu'il a expliqué, c'est qu'en fait, il voulait montrer que l'ancêtre du nationalisme palestinien avait déjà le projet, à travers l'incitation systématique à la haine, d'anéantir les juifs.
Bon, les nationalistes israéliens ont bien comme projet d'anéantir les Palestiniens. Je veux dire, finalement, on a l'impression qu'en tenant ses propos, il essaye de dédouaner l'extrême droite avec qui il travaille, et c'est pour ça qu'il tient ses propos. Ça ressemble plutôt à une sorte de justification politique maladroite, parce que je pense qu'il s'attendait pas à ce que ça soit instrumentalisé et se soit mis autant en avant. Mais c'est ça, c'est que voilà, il essaye de dédouaner l'extrême droite qu'il a avec lui, qui est pas très loin des propos d'Hitler. Dans les années 30, pas le Hitler des années 40, du début des années 40, mais le Hitler des années 30. Et ils en sont assez loin dans l'idée d'avoir un peuple pur, hein, c'est ce que veulent les nationalistes israéliens, donc pas d'arabes musulmans et pas d'arabes chrétiens, hein, ils veulent qu'il y ait que des juifs en Israël. Ils sont dans cette idée de purification ethnique qui est en commun avec les idées des nazis d'Hitler.
Et alors là, monsieur Netanyahou hier était à Berlin avec Madame Merkel, autant dire qu'Angela, elle lui a répondu. Elle lui a dit que en Allemagne, tout le monde était bien conscient de la responsabilité des nazis, hein, qu'il n'y avait aucune raison de renier tout ça, de changer l'histoire. Alors, Monsieur Netanyahou a déclaré « Israël veut la paix. Je veux la paix. Une paix fondée sur une reconnaissance mutuelle avec des garanties de sécurité autorisant l'État d'Israël à se défendre par lui-même. » Donc dans la même phrase, il parle de paix et de défense, ouais, et de sécurité. Il y a un problème, et puis s'il veut tellement la paix, bah, peut-être va falloir qu'il calme un peu les esprits, parce que pour l'instant, c'est pas du tout ce qu'il fait.
Non, mais il a jamais voulu la paix, ceci. Alors poursuivons, on va parler d'un truc plus léger quand même, parce que là ça commence à être un petit peu lourd ce début de Canu Info, avec l'Italie et les fromages. Et c'est une bonne nouvelle qui nous vient d'un salon qui s'appelle Cheese. Alors je sais pas pourquoi ils ont pris un nom anglais, c'est quand même triste, que la foire au fromage qui est créée par le mouvement Slow Food, qui est un mouvement un peu à l'image de la décroissance il y a quelques années, c'est-à-dire on consomme local, des produits respectueux de l'environnement, enfin il y a tout un mouvement Slow Food qui est très très important et qui a essaimé un peu partout dans le monde d'ailleurs. Donc ils organisent ce salon Cheese et ils ont annoncé officiellement, et le gouvernement italien a suivi, qu'ils étaient contre la mesure que la Commission européenne a prise sous la pression des lobbies de l'industrie agroalimentaire d'autoriser la fabrication de fromage à base de lait en poudre. Alors qu'aujourd'hui, il faut du lait normal, pas en poudre. Donc c'est, pour la petite histoire, fin mai que la Commission européenne avait déjà envoyé une lettre au gouvernement italien sous peine de sanction en leur disant qu'il fallait qu'ils acceptent que les produits laitiers fabriqués à base de lait concentré ou de lait déshydraté ou de lait en poudre soient considérés comme des fromages par l'Italie, alors que l'Italie veut pas. Alors, c'est Giuseppe Alè, qui est le président du consortium du Parmigiano Reggiano, donc le parmesan fabriqué avec du lait de vache nourri exclusivement d'herbe, hein, de la région entre Milan et Turin, qui dit, je cite, « Le fromage pourrait donc être fabriqué à partir de lait en poudre venant de toute l'Europe sans aucun lien avec le territoire. » Et il continue « Bien sûr, il y aura toujours des produits labellisés d'origine contrôlée, mais ils sont toujours plus chers, alors qu'actuellement, avec le système qu'il y a, il dit, nous garantissons aussi la qualité des produits courants, c'est-à-dire des produits pas chers. Le parmesan acheté en supermarché en Italie, il est aussi fait avec du lait de vache nourri à l'herbe. Alors que si la directive européenne se met en place, eh ben, on trouvera en supermarché du parmesan fait avec du lait de merde venant de n'importe quel endroit de l'Europe qui aura fait en plus des kilomètres pour pas grand-chose. Même si à côté il y aura toujours les produits sérieux, donc eux ils militent pour que tous les produits soient bons et sérieux pour tout le monde, quel que soit le prix. Donc il y a le président de Slow Food, hein, qui s'est exprimé aussi et qui a accusé ouvertement Lactalis notamment, c'est-à-dire les multinationales qui veulent faire du fromage avec sans lait, c'est-à-dire avec du lait en poudre, hein, parce que c'est plus vraiment du lait. On rappelle que le lait en poudre, c'est un lait qui a été forcément pasteurisé, qui donc n'a plus vraiment les qualités nutritives et gustatives. Alors faut savoir déjà que le lait qui est issu des fermes industrielles, il a déjà très peu de qualités gustatives et nutritives, mais alors quand il est pasteurisé, il reste plus rien, il reste simplement ce qui intéresse l'industrie, c'est-à-dire des matières grasses et des protéines. Donc c'est pour ça que l'Italie se rebelle à travers ce mouvement Slow Food et ce salon du fromage, c'est à Bra très exactement, la ville italienne où se passe Cheese, ce salon du fromage au nom étrangement anglophone, mais voilà. Donc une bonne réaction, on aimerait bien que le gouvernement français fasse pareil, réagisse. La Commission européenne, elle a des comptes à rendre. Les décisions qui sont prises en Europe, elles sont prises par tout le monde, hein, on vous rappelle. Même si là c'est un peu particulier parce que c'est la Commission européenne, c'est-à-dire le truc le moins démocratique du système européen. Mais il y a quand même des moyens de lutter contre tout ça.
Oui, j'aime bien quand tu fais des sujets sur l'agroalimentaire, tu vois. Ça, c'est... Parfait.
Bah, t'as mangé du parmigiano reggiano il n'y a pas longtemps, il
était
bon.
C'est tout à fait ça. Alors, on ne va pas raconter notre vie à l'antenne, on va parler un petit peu de Chine. On va commencer en donnant des nouvelles de Ai Weiwei. Vous savez, cet artiste dissident chinois, vous avez raconté qu'on lui avait enlevé son passeport, il a eu des problèmes judiciaires, il avait été arrêté, et puis finalement on lui avait rendu son passeport, on lui avait quand même confisqué pendant 4 ans, hein, c'est pas rien. Et puis, on vous avait raconté que, par exemple, il avait mis en place, dans le cadre de sa protestation, sur les réseaux sociaux, des photos de fleurs qu'il prenait dans le panier de son vélo. Voilà, c'était une marque poétique, c'est un artiste. Il a obtenu un visa de séjour de 3 ans en Allemagne. Hein, je vous avais expliqué à l'époque qu'il espérait pouvoir rejoindre son fils à Berlin. C'est ce qu'il a fait dès le mois de juillet, qu'il aurait pu récupérer son droit à voyager. Il est allé rejoindre son fils et sa compagne, donc il a obtenu ce visa de séjour. Et puis, il a obtenu aussi une chaire à l'Académie des Arts de Berlin. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Ah bah
ouais, c'est une bonne nouvelle. D'autant plus qu'il continue maintenant à pas mal tourner, toujours avec ses expos un petit peu de partout. Donc, voilà, les choses se sont bien arrangées pour Ai Weiwei. Ouais, et puis, je vais continuer avec la Chine, hein, si vous voulez bien, puisque... Il n'y a pas très longtemps, on vous disait que la France est prête à négocier à l'étranger avec des dictatures, des pays autoritaires pour quelques euros. Pour beaucoup d'euros, d'accord, je vous l'accorde. Mais voilà, et puis de s'asseoir sur les droits de l'homme, sur toutes ces discussions-là. Eh ben, c'est partout pareil, hein, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas être naïf. Lundi, c'est le président chinois Xi Jinping qui s'est rendu à Londres pour 4 jours de voyage. Alors un voyage avec le faste du royaume. Hein. Le premier jour, il y a eu un défilé en carrosse, un discours au Parlement, et même le thé avec le prince Charles, n'est-ce pas ? Alors cette première journée, c'était clôturée par un banquet au palais de Buckingham, donné par Elisabeth II, et qui avait réuni plus de 170 invités, dont le premier ministre, monsieur David Cameron. Il y avait aussi le leader de l'opposition, hein, Jeremy Corbyn. Donc il paraît qu'au menu, il y a eu du chevreuil, du turbo, et puis qu'il y a eu de la musique chinoise aussi, pour mettre le président chinois dans l'ambiance, et puis dans le cocon aussi. Parce que là, l'idée quand même, c'est de relancer évidemment l'activité économique. Il faut savoir que c'est le premier partenaire ici en Europe, entre Grande-Bretagne et Chine. Hein, à côté, la France, elle se coule les bras, mais elle est un petit peu loin. Donc il y a là évidemment des accords commerciaux qui sont censés être conclus, des investissements qui pourraient peser plus de 40 milliards d'euros. Toujours, hein, on nous parle en milliards. Ah bah oui, je vous ai dit, hein, c'est quelques euros quand même. Il faut dire aussi que la Chine est candidate à un appel d'offres de 58 milliards, excusez-moi, d'euros pour la construction d'une ligne ferroviaire à grande vitesse entre Londres, Manchester et Buckingham. Donc l'idée, c'est là du rapprochement quand même. Mais alors, à force de se rapprocher économiquement, on en oublie encore une fois de parler des droits de l'homme. C'est bien ce qu'ont reproché encore une fois les organisations politiques syndicales à Londres. Donc il y avait eu pendant le parcours, la balade en carrosse, il y a eu des manifestations qui ont été organisées à plusieurs points pour que quand même le président chinois puisse bien les voir. Alors vous allez me dire, c'est hyper symbolique. Ouais, peut-être, mais quand toute l'année vous bossez contre la répression pour les droits de l'homme, de temps en temps dans la rue, puis d'aller gueuler sur un gars que vous traitez d'autoritaire, bah, ça fait du bien, hein, je pense que c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Alors, il paraît que malgré tout, il y a eu un truc super. Parce qu'il n'y a peut-être pas d'avancée pour les droits de l'homme et contre la répression, mais par contre, ça va peut-être s'améliorer pour le boycott des produits d'ivoire. Oui, parce que le prince William, lui, il est très impliqué dans la lutte pour la défense des éléphants et il essaye de convaincre les Chinois de boycotter les produits d'ivoire parce qu'ils en sont très friands. Alors ça, c'est un fait qui a été beaucoup rapporté par la presse parce qu'évidemment, ça touche à la famille royale. Sur les droits de l'homme, par contre, il y a eu beaucoup moins d'articles. Hein. On a préféré parler des éléphants. Alors, c'est important de sauver les éléphants. Mais c'est vrai qu'il faut dire quand même que la presse fait quelques choix au niveau de sa ligne éditoriale, hein, on peut dire.
Puis on reste en Chine, puisque nous avons appris que hier, mercredi, Robert Mugabe était lauréat du prix Confucius de la paix. Alors c'est le surnom de ce prix chinois équivalent au prix Nobel de la paix. Enfin, je veux équivalent au prix Nobel de la paix. Donc c'est une distinction qui est ultra choquante, bien évidemment, puisque Robert Mugabe est quand même dictateur en chef du Zimbabwe depuis 28 ans, qu'il a recours à la torture, à l'assassinat de ses opposants politiques, qu'il a détruit complètement l'économie de son pays. Mais en même temps, il faut se rappeler que le prix Confucius est a été donné à l'homophobe et autoritaire Vladimir Poutine, à Fidel Castro, qui n'est pas le plus grand démocrate du monde, enfin voilà, à plein de gens pas très respectables. Et puis on rappellera pour finir que ce prix, en fait, a été monté par une association en 2010 contre le vrai prix Nobel de la paix. Pourquoi ? Parce qu'en 2010, le prix Nobel de la paix avait été donné à Liu Xingbao, Xiaobo, j'arrive jamais à prononcer son nom, excusez-moi, mais qui était donc un dissident chinois. Il avait eu le prix Nobel de la paix et en échange de ça, la dictature chinoise avait dit « Ah ben nous aussi on va faire un prix Nobel de la paix, ça s'appellera le prix Confucius de la paix et qu'on va attribuer essentiellement à des régimes totalitaires, donc Poutine, Castro et maintenant Robert Mugabe. C'est la classe, la Chine. »
Ouais, je trouve ça super classe, vraiment. Je voudrais vous parler ce soir d'une colère, d'une révolte qui gronde en Afrique du Sud. C'est une colère, une révolte qui s'est répandue depuis une semaine chez les étudiants et les étudiantes. Les manifestations sont importantes. Il y a une protestation contre la hausse des frais de scolarité à l'université. C'est partout pareil. C'est-à-dire que c'est la même chose qu'au Canada, il n'y a pas si longtemps. Au Cap, hier, il y a un certain nombre d'étudiants qui ont tenté de rentrer dans le Parlement. Ils se sont pris la police anti-émeute dans la tronche.
Normal.
Ouais, ouais. Mais l'action était belle. Quand même, il faut le dire, ils étaient nombreux et l'action était belle. Et à l'intérieur, il y avait une séance parlementaire et cette séance a dû être interrompue. Elle se déroulait en présence de monsieur Jacob Zuma. Et pendant cette séance parlementaire, c'est les députés de gauche qui ont été exclus. C'est pas mal quand même, hein, pendant la séance. Ils réclamaient tout simplement que la question des frais de scolarité soit mise à l'ordre du jour. Ça paraît être une demande simple. Et ben, ils ont été exclus. Ça a été assez mouvementé hier. On a appris aujourd'hui que la police avait arrêté une trentaine d'étudiants. On n'en sait pas bien plus à l'heure actuelle. À Port-Élisabeth, la police a dispersé la manifestation avec des grenades assourdissantes. Il y a une dizaine de personnes qui ont été arrêtées. Alors il y a un slogan en français, ça donne les frais doivent baisser. En anglais, ça donne fees must fall. Ça sonne carrément mieux quand même, il faut le dire. Certains syndicats étudiants demandent que les frais d'inscription soient gratuits. Alors on va dire, ouais, c'est une belle utopie. Bah ouais, mais ça dépend où est-ce qu'on veut mettre son argent, est-ce qu'on le met dans l'éducation ou pas. Pour l'instant, en Afrique du Sud, c'est pas le cas. Les frais d'inscription continuent à augmenter chaque année. Et en plus, ils sont très variables selon les universités. Le gouvernement a bien fait une tentative pour essayer de proposer de limiter une augmentation qui est un maximum dans l'ensemble des universités, mais ça n'a pas été accepté du tout par les étudiants et par les syndicats d'étudiants. Ce qui évidemment est mis en avant, c'est que les étudiants et les étudiantes souhaitent pouvoir accéder à l'université normalement, tous et toutes, sans discrimination, et que plus évidemment, c'est logique, plus ça augmente, et plus il y a des difficultés pour certains et certaines de pouvoir accéder à l'enseignement supérieur. Alors, il paraît que pour les universités, pour le gouvernement, c'est une hausse nécessaire pour une meilleure qualité d'enseignement. Ça dépend encore une fois dans quoi on veut investir. On peut décider que il y a assez d'argent dans l'éducation et que on va plutôt former moins de gens avec peu d'argent, ou alors décider d'ouvrir les cordons de la bourse et puis de permettre à tous et à toutes de pouvoir avoir un accès correct à une éducation qui devrait vraiment être pour tous et pour toutes. Voilà. Mais a priori, c'est pas vraiment encore une priorité en Afrique du Sud comme dans bien d'autres États.
19h30, maintenant nous allons faire trois infos autour des fachos de chez nous et d'ailleurs. On va commencer par la dédiabolisation extrême, on va dire, de l'extrême droite, avec Anticor. Donc Anticor, c'est l'association anticorruption qui a été fondée notamment par le juge Alphen, un juge célèbre du système judiciaire français, qui vient d'ouvrir sa charte éthique aux candidats FN à l'occasion des prochaines régionales. Alors, c'est quoi le truc? C'est qu'Anticor va proposer aux candidats aux élections au nom du FN de valider leur engagement anticorruption. Alors jusque-là, le FN était exclu d'office de cette démarche, en disant l'extrême droite, même s'ils sont contre la corruption, on veut pas d'alliance, on veut pas valider ce qu'ils font, on veut pas, quelque part c'est un soutien. Hein, quand on dit bah oui, ce candidat il est anti-corruption, il peut mettre un truc validé par Anticor, que c'est quand même assez horrible jusqu'où ça pourrait aller. Alors, mais ils ont décidé que le FN ne serait plus exclu maintenant, les candidats FN en tout cas, de cette démarche. Une interview à Libé qui a été donnée par Jean-Christophe Picard, qui est le président de l'association, et qui explique, alors je vais le citer toute sa phrase, et puis vous allez voir que c'est quand même, c'est pas rassurant en fait sur ce qui est en train d'arriver avec l'incrustation du Front National de partout. Je cite donc ce Jean-Christophe Picard, il dit « Il paraît que nous normalisons », puisqu'il a été critiqué, donc il répond en fait aux critiques, « Il paraît que nous normalisons le FN. Franchement, il s'est normalisé sans nous. Il a des élus partout aujourd'hui. On entend encore des choses dérangeantes au FN, mais désormais, on les entend aussi dans d'autres partis. L'étiquette n'est donc plus un marqueur suffisant pour savoir si un candidat est sincèrement républicain ou pas. C'est pourquoi nous continuerons de fermer nos chartes à certains candidats, FN ou pas, en cas d'actes ou de propos répréhensibles. Mais nous ne nous baserons plus seulement sur leur couleur politique. Sur les réseaux sociaux, on dit aussi que nous sommes dévoyés, alors que nous aurions été créés en réaction contre le FN. C'est faux. Nous existons contre ce qui donne envie aux gens de voter FN. Nous pensons sincèrement que sa diabolisation a été contre-productive et qu'il est temps de le mettre face à ses contradictions. En gros, son raisonnement, c'est « Puisque les idées du FN se sont banalisées, autant accréditer ce fait en acceptant de le traiter comme un parti, comme les autres. » C'est quand même super triste, super inquiétant de voir ça d'une asso qui était plutôt respectable, Anticor, hein, qui faisait des choses contre la corruption. Alors, ils ont beau se défendre, quoi qu'il arrive, eux-mêmes, ils participent effectivement à la normalisation du parti d'extrême droite. Et puis, son excuse de dire « mais c'est pas parce que d'autres responsables politiques ont tenu des propos qui sont pas respectables que on doit exclure tout le monde ou accepter tout le monde », non, ça marche pas. C'est pas parce qu'il y a des gens qui tiennent des propos limites qu'ils le font au nom de leur parti, alors que le FN, c'est quand même les idées, toutes les idées qui sont à rejeter et tout ce que ça sous-entend de racisme, d'exclusion, de haine, de tout ce que vous connaissez déjà sur ce parti d'extrême droite. Et ça tombe pile au moment où un grand nombre de médias font des courbettes, invitent à tour de bras, notamment Marine Le Pen, comme ce qui se passe à France 2, où elle, avant les élections, elle a le droit à 2 heures de parole incroyables. À un moment, si elle gagne une élection importante, eh ben tous ces gens, ils seront quand même complices. De l'arrivée des fachos au pouvoir. Ils le sont déjà dans les petites villes, hein, tous ces médias qui donnent la parole et qui surtout ne cassent pas la parole, ne cassent pas le discours, ne cassent pas le programme politique de l'extrême droite et des candidats d'extrême droite. Donc voilà, c'est quand même un signe très inquiétant pour ce qu'on pourrait appeler la démocratie française. Pour la République.
Ouais, ouais. Moi, je vais revenir sur ce qui s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche à Besançon.
Vas-y.
Tu voulais terminer sur autre chose ?
Non, je le ferai ma deuxième info après.
Allez, je prends la parole comme ça. C'était donc à Besançon, dans la nuit de samedi et dimanche, je vous le disais, 2h du matin. Un groupe de 5 personnes, a priori, crâne rasé et bombeurs, d'après les témoignages, on appelle donc ça des nazions, a attaqué l'autodidacte. C'est un lieu. Alors, c'est la librairie du groupe Proudhon de la Fédération anarchiste. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de débat. Il y a une AMAP. Voilà. Donc, c'est un lieu alternatif, c'est un lieu de vie à Besançon.
Ouais. Mais qui est vu comme étant un lieu d'extrême gauche, c'est-à-dire un art par l'extrême droite, ce qui est assez réaliste, somme toute.
Oui. Alors, pendant l'attaque, donc les volets ont volé, la porte vitrée aussi. Mais heureusement, ça n'a pas été plus loin, puisqu'il y avait des personnes qui avaient participé aux rencontres Alternativa qui sont intervenues.
C'était juste à côté, ouais, donc ils ont pu intervenir. Voilà. Les gens du bar à côté aussi sont intervenus, je crois.
Donc ça a permis de les chasser rapidement. Alors d'après ce qu'on en sait, il y a deux personnes qui ont été interpellées.
Et qui sont vraiment des gens issus des milieux d'extrême droite. Hein. On a les infos, les noms, les photos, tout ça.
Ouais, c'est ça qui est intéressant en fait aussi là-dedans, c'est que c'est des locaux. Qui sont connus des antifas à Besançon et bien au-delà, qui ont leurs petites histoires, on connaît leurs habitudes, donc ces gens sont quand même assez débiles, disons-le. Ils ont été attaqués à un lieu qu'ils détestent tout simplement. Hein, c'est une haine absolument. C'est même plus de la politique. Hein, là, c'est juste de la haine. Voilà. Paraît-il, d'après la police, qu'ils étaient un petit peu bourrés. Ceci n'excuse pas forcément ouais, cela.
Alors, les témoignages qu'ils les ont vus attaquer disent qu'ils n'étaient pas bourrés.
Voilà. Puis, même si c'est le cas,
l'alcool n'excuse pas.
Voilà, excuse pas. Donc, c'est des gens qui sont très connus dans le coin. Donc, je sais pas à quoi ils s'attendent maintenant, en fait, à vrai dire. Ce qui est intéressant, c'est aussi la solidarité qui s'est mise en place sur Besançon. Tout de suite, il y a eu une super réaction, c'est qu'il y a eu un collage assez important avec des affiches Antifa, des affiches du Scalp, hein, vous trouverez des photos sur Internet. Donc les rues autour ont été bien encollées, ça c'est chouette. Et puis il y a aussi un appel à la vigilance sur place, et puis surtout un appel à l'entraide et à la solidarité comme moyen d'autodéfense, c'est-à-dire de ne pas se laisser emporter non plus n'importe où, et puis d'être ensemble, d'être solidaire et de faire face à ces abrutis assez racistes, assez fachos, et ne pas se laisser faire, être dans la résistance. Et c'est bien dans l'idée d'être unis que ça ira mieux et plus vite, et c'est bien le message qui est donné, je trouve, et c'est ça qui est aussi intéressant là-dedans, c'est cette réaction-là.
Alors on va aller en Allemagne maintenant pour la dernière info autour de l'extrême droite, et c'est une plutôt bonne nouvelle qui est arrivée aujourd'hui, c'est la police allemande qui a arrêter les militants d'un groupe d'extrême droite qui préparaient des incendies de foyers de migrants. Alors vous savez, c'est une habitude con, ces néo-nazis allemands, enfin tous les groupes d'extrême droite, hein, qu'ils soient néo-nazis ou d'autres groupuscules de ces idées politiques, d'agresser, de mettre le feu à ces foyers d'immigrés ou de migrants. Donc voilà, donc ils ont arrêté, cette police, 13 personnes, 11 hommes et 2 femmes, c'est dans le sud, à Bamberg. Alors, c'est pas un moment qu'ils les surveillaient, et là, ils les ont vraiment arrêtés, alors qu'ils préparaient des nouvelles actions. Il faut savoir que la police a aussi rappelé qu'il fallait que tout le monde soit vigilant, notamment les élus politiques, puisqu'on rappelle qu'il y a eu une agression il y a pas longtemps au couteau d'une candidate à une élection, et qui a d'ailleurs juste après de son lit d'hôpital appris la nouvelle qu'elle avait remporté l'élection. Alors peut-être que ça a aidé les gens à voter pour elle aussi, en disant qu'au moins elle luttait pour ses idées contre l'extrême droite. Donc voilà, il se passe des choses en Allemagne, c'est très difficile la situation, il y a une énorme montée de l'extrême droite en Allemagne, alors que elle est un petit peu cachée, parce que effectivement les néo-nazis, on peuvent pas se montrer autant que chez nous, hein, le signe avec la croix gammée est interdit, il y a plein de choses de par le passé de l'Allemagne qui sont interdites, mais ça n'empêche pas ces groupuscules de progresser, et ça n'empêche encore moins malheureusement leurs idées de progresser dans la population. Voilà, on rappelle que c'est tout ça est lié notamment au discours de Merkel sur l'accueil des migrants, ce qui a reboosté un petit peu les mouvements politiques d'extrême droite et leurs actions violentes associées. Voilà. On continue et on va parler du capitalisme mortel qui tue, et le scandale du Mediator. Je vais pas revenir dessus parce qu'on en a beaucoup parlé, mais juste donner l'info du jour, c'est la première condamnation par un tribunal, c'est le tribunal de grande instance de Nanterre qui a reconnu pour la première fois la responsabilité civile des laboratoires Servier pour avoir laissé sur le marché un médicament dangereux dont il ne pouvait pas, je cite, ignorer les risques. Et c'est une énorme victoire, parce que le laboratoire Servier, qui d'après les experts médicaux et judiciaires serait responsable une fois que leur médicament finit d'agir d'à peu près 2100 décès, ce qui est énorme, hein. Il n'y a aucun serial killer en France qui a tué autant que le laboratoire Servier, hein. Et voilà, jusqu'à maintenant ils avaient échappé aux condamnations, c'est la première, bien évidemment ils vont faire appel. Bien évidemment, la condamnation, elle est faible. Ils ont, les deux qui avaient porté plainte, qui étaient devant ce tribunal, ont récupéré 30 000 euros. C'est quoi pour une vie, pour une maladie, pour un truc créé volontairement, parce que c'est ce que dit la justice, qui ne pouvait pas ignorer la dangerosité. On sait tous qu'il y a des études qui avaient montré la dangerosité. Certains produits étaient interdits dans certains pays. Voilà, il y a plein de choses contre Servier. Mais Servier a tellement été protégé par les politiques, parce que c'est un grand capitaine d'industrie française et politique de droite, de gauche ou d'extrême droite, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, ils ont tous protégé le laboratoire Servier, du coup jusqu'à maintenant il avait échappé à la justice. Ce qui est triste quand même, c'est que son chef a échappé à la justice puisqu'il est décédé. On aurait bien aimé quand même le voir condamné pour les morts qu'il a engendré suite à son médicament. Voilà, la lutte continue puisqu'il y a encore plein de personnes qui vont aller en justice et puis que l'avocat va faire appel.
On va continuer avec un petit peu d'économie. On va parler de Bolloré. Monsieur Vincent Bolloré et sa petite entreprise, ou plutôt ses multiples participations, puisque je vous rappelle que Vivendi, c'est Bolloré, puisque c'est lui qui est actionnaire majoritaire. Vivendi est maintenant le premier actionnaire de l'éditeur de jeux vidéo Ubisoft. Alors, ça fait une semaine qu'on a donc appris que le groupe était entré au capital de la société et de la petite Game Loft. D'abord avec une participation annoncée à 6%, et puis on a appris hier et une confirmation ce matin que Vivendi était monté à plus de 10% dans chacune des deux sociétés. Alors ça faisait un moment que Vivendi préparait a priori cette entrée chez Ubisoft. Ça faisait des mois qu'apparemment Vivendi a acheté un petit peu comme ça des actions, l'air de rien. Il faut savoir que jusqu'à 5%, vous n'êtes pas obligé de vous déclarer. À partir de là, il y a déclaration. C'est pour ça qu'à partir de là, Vivendi s'est déclaré avec sa participation à 6%. Alors Ubisoft, c'est le numéro 3 mondial avec des franchises assez connues. C'est une entreprise qui est dirigée par les frères Yves et François Guillemot, qui sont les fondateurs d'Ubisoft. Excusez-moi, je bafouille. Alors Yves Guillemot possède 9,4% des parts. Il est donc en position minoritaire. Heureusement, pour l'instant, Michel Guillemot détient plus de 22% de Gameloft, ce qui fait que Gameloft reste encore sous contrôle des Guillemot. La question est de savoir maintenant comment ça va se passer pour Ubisoft, puisque Vivendi, je vous rappelle que c'est Canal+, et quand on voit comment ça se passe actuellement pour Canal+, on peut penser, pour Ubisoft, c'est pas gagné.
Il y a peut-être moins d'enjeux politiques qu'une télé, quand même. C'est des jeux vidéo.
Mais il faut rappeler que là, médiatiquement, on a beaucoup parlé des guignols. Peut-être un peu trop. On a un peu oublié de parler à l'arrière de la nouvelle stratégie financière et économique de Canal+, qui est donc impulsée par Vincent Bolloré. C'est ça qui est le plus important, parce que financièrement, ça va pas se passer tout à fait pareil. Que les programmes vont pas être les mêmes, et qu'à côté de ça, les guignols sont un petit peu juste l'arbre qui cache la forêt des emmerdes, quand même, il faut le dire. Alors, Ubisoft a publié un communiqué assez clair et assez simple, c'est deux phrases. Nous prenons acte de cette prise de participation non sollicitée.
Voilà, Bon, en même temps, il faut pas qu'ils fassent semblant. Ils sont dans le capitalisme, ils ont émis des actions, et c'est normal que les actions soient rachetées. Enfin, voilà.
Exactement.
Il faut pas qu'ils fassent les vierges effarouchées. Ils sont dans le jeu libéral. Il faut qu'ils assument le jeu libéral pourri. C'est leur choix.
C'est bien ça la vérité. Évidemment, Vivendi, comme je vous le disais, a agi un peu en cachette.
Par derrière. Mais ça fait partie.
C'est
du
pas
jeu
très
libéral.
Plaisant. Je vais bien le croire. Alors, deuxième phrase. Nous rappelons la volonté du groupe de rester indépendant. Bon. Mais tout de suite.
Indépendant de quoi, de qui,
voilà.
Ils sont.
Bon, on se demande bien, mais ils s'inquiètent quand même de cette prise de Vivendi avec la présence de Monsieur Bolloré, parce que ce qui est clair en tout cas, c'est que Monsieur Bolloré a décidé de faire exactement comme il veut partout où il passe. Alors du côté de Vivendi, au début la semaine dernière, on a communiqué assez softement en disant qu'il n'y avait pas d'urgence globalement, et puis les communiqués qui sont arrivés par la suite sont beaucoup plus précis. C'est-à-dire, globalement, Vivendi ne s'interdit pas de rentrer à la direction, au conseil d'administration. Vivendi ne s'interdit pas d'acheter plus d'actions. Vivendi ne s'interdit absolument rien. Et puis, au début, il faut savoir que les premières déclarations, la semaine dernière, c'était juste un investissement pour Vivendi. Le dernier communiqué semble indiquer plus précisément une stratégie de convergence opérationnelle, c'est les termes qui sont utilisés dans ce communiqué. Donc globalement, il y a quand même derrière une volonté de s'accaparer Ubisoft et pas juste de les accompagner et de faire du blé financièrement sur le groupe. Voilà, donc il y a des ambitions derrière. Monsieur Bolloré a tout plein d'idées quand même.
Ah oui, il envahit notre monde en ce moment.
Ah oui, il est très très présent. Ouais.
Alors on va parler un petit peu du monde orwellien, vous savez, celui de 1984 qui semble devenir de plus en plus réel en 2015, voire d'ici quelques années encore plus. Alors on a appris que le Conseil d'État, alors je vous raconte un truc un peu compliqué, hein, mais vous allez voir, c'est le Conseil d'État qui a finalement attribué une autorisation, on va dire, à la proposition de loi sur la surveillance internationale du sénateur Philippe Bas, qui est un sénateur Les Républicains. Qui est un avis qui va servir aussi aux députés Patricia Adam et Philippe Nauche, qui sont eux du PS, qui avaient déposé préalablement une autre proposition de loi identique. Donc, rappel des faits, c'est en juillet dernier, lors de l'examen de loi sur la fameuse loi sur le renseignement, que le Conseil constitutionnel avait invalidé l'article relatif à la surveillance internationale, car ils estimaient que ça laissait trop généreusement à l'exécutif le soin de déterminer les modalités d'exploitation, de conservation, de destruction des renseignements collectés à l'international par les services de renseignement. Après cette gifle, le gouvernement avait alors annoncé un nouveau projet de loi qui s'est transformé, je veux dire, par la suite, en une proposition de loi qui a été portée donc par Patricia Adam et Philippe Nauche du PS. Donc voilà, l'exécutif tentait de court-circuiter un petit peu l'étude d'impact et l'avis préalable du Conseil d'État pour faire passer ce projet de loi. De son côté, donc ça arrivait en parallèle finalement, le sénateur Les Républicains Philippe Basse, lui, n'était pas d'accord tout à fait avec la stratégie, donc il a déposé à son tour une proposition de loi relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales, pour citer le nom de son projet de loi, très très similaire, pour pas dire identique, aux députés socialistes. Dans la foulée, Gérard Larcher en a profité pour saisir la haute juridiction administrative, c'est autorisé par l'article 39 de la Constitution, pour demander une sorte d'autorisation. Et le Conseil d'État a répondu, la news qu'on a d'aujourd'hui, la nouvelle d'aujourd'hui, que la proposition de loi faite par M. Basse, je cite, répond aux exigences qui découlent de la décision du Conseil constitutionnel du 23 juillet 2015 sur le renseignement. En gros, ils disent que ce texte est conforme à la Constitution. Alors, bien évidemment, c'est pas obligatoire de suivre l'avis du Conseil d'État, mais c'est quand même souvent un avis qui est écouté. Ce qui va, et alors ça c'est la première truc, et le deuxième truc, eh ben ça va faire plaisir à Patricia Adam et Philippe Nauche du PS, qui vont pouvoir se servir de cet avis pour porter leur propre projet de loi, puisque c'est quasiment le même, et le faire passer au Sénat. Ce sera le 27 octobre prochain. Voilà, l'Assemblée nationale va le discuter une fois aussi, puisque ça passe en truc accéléré. Enfin voilà, grosso modo. Peut-être pas en formation accélérée, mais en tout cas, tout devrait bien se passer pour ce projet de loi, puisque gauche et droite, et bon, l'extrême droite n'a pas pu s'exprimer, mais elle pense la même chose, ils sont d'accord pour augmenter la surveillance de tout le monde, partout, pas simplement en France, mais à l'étranger. Donc voilà, continuons de surveiller partout tout le monde. Ils n'avaient pas trop critiqué les Américains quand ils avaient appris qu'ils le faisaient. On comprend pourquoi ils voulaient faire pareil. Et alors, deuxième info sur ce monde de surveillance typiquement orwellien, puisque nous avons appris qu'afin de faciliter le recouvrement des PV, le gouvernement a décidé d'obliger l'administration fiscale, donc notamment, mais ça va concerner toute l'administration, à fournir à la RATP ou à la SNCF, l'état civil et l'adresse des personnes écopant d'une amende, par exemple pour un défaut de transport. C'est pas mal ça. Jusqu'à maintenant, on était un peu protégés, on avait juste la carte d'identité, si on l'avait pas, voilà, ils n'arrivaient pas à recouper. Eh ben, le projet de loi qui est en cours devrait leur permettre à ces sociétés privé ou public, ou semi-privé ou semi-public, ou public tout court, la RATP et la SNCF en l'occurrence, d'accéder, mais c'est le début, hein, ça va se généraliser après toutes les sociétés de transport du coup, d'avoir accès donc aux fichiers de la Sécu, des impôts, pour pouvoir arrêter le méchant contrevenant. Donc on va rentrer dans un système où finalement le fichier que vous avez forcément avec l'État, parce que vous en avez forcément un pour les impôts ou ces choses-là, il pourrait être utilisé par moult entreprises si jamais vous n'êtes pas réglo sur quelque chose. Et bien évidemment, vous n'avez pas la contrepartie, c'est-à-dire avoir accès à des données de l'entreprise si jamais elle vous arnaque. Pas du tout, ça marche pas dans les deux sens, ça marche que dans un sens. Donc voilà, c'est une proposition qui n'a pas encore été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, vraisemblablement à cause des discussions budgétaires qui viennent juste de débuter et qui prennent un petit peu de temps. Mais le gouvernement a choisi de passer ce texte, cette fois-ci, c'est vrai, sous la procédure d'urgence. Donc il n'y aura qu'une seule lecture à l'Assemblée et une seule lecture au Sénat. Voilà, c'est pas rassurant, ce monde de contrôle et de surveillance systématique de toutes les populations, notamment ici. Je continue avec deux petites infos sur l'exploitation animale. Donc une qui nous vient de Californie, et c'est SeaWorld, vous savez, c'est ces parcs aquatiques, hein, comme le Marineland en France, on en parlera après, qui donc emprisonnent des animaux aquatiques et les font visiter, comme les zoos, un petit peu, à la population. Alors qu'est-ce qui leur arrive ? Ben, la Californie vient de bannir toute forme de reproduction en captivité. Donc on n'a plus le droit en Californie de faire reproduire notamment les orques en captivité. On va me dire, bon ben c'est pas grave. Ben si, parce que pour... Alors c'est pas grave, tant mieux pour les orques, mais pour la Californie et pour SeaWorld, c'est problématique, surtout pour SeaWorld. Hein, c'est à San Diego très exactement, SeaWorld. Donc c'est juste à côté de Los Angeles. Parce que ils n'ont plus le droit non plus d'aller chasser des orques dans la mer pour les ramener en captivité, c'est déjà interdit en Californie. Du coup, à long terme, eh ben, ils vont plus avoir d'orques, ils en auront plus parce qu'ils peuvent pas les faire se reproduire, ils peuvent plus aller en chasser, donc quand leurs orques mourront en captivité, ils pourront pas les renouveler. Du coup, c'est une bonne nouvelle pour les défenseurs de la cause animale, notamment l'association People for the Ethical Treatment of Animals, qui s'est félicitée de cette nouvelle. Alors, SeaWorld a réagi en disant, je cite, vous allez voir, la réaction est assez intéressante, ils disent « La reproduction est une part naturelle, fondamentale et importante de la vie animale. Et priver un animal sociable du droit de reproduction est inhumain. » Oui, mais emprisonner un animal, est-ce que c'est humain ? Non. Donc l'idée, ce qu'ils n'ont pas compris, bah, c'est que s'ils libèrent leurs orques, eh ben, les orques vont pouvoir se reproduire sans problème dans la mer et batifoler. Alors que là, non. Voilà, bon, bref, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les animaux en prison. Et puis, quelque chose qui n'est pas encore une bonne nouvelle, mais on va revenir, c'est L214, une association de protection des animaux, qui est pas mal monté au créneau avec l'aide de Sea Shepherd sur le Marineland qu'il y a dans le sud de la France, à Antibes très exactement. Vous savez qu'il y a eu cette grosse tempête qui a été ultra médiatisée, hein, où il y a eu quelques décès d'êtres humains, on va dire. Mais il y a aussi des animaux qui ont beaucoup souffert, les animaux de Marineland. Alors, ils donnent pas beaucoup d'infos sur ce qui s'est passé, mais a priori, d'après ce qu'on a pu entendre, toutes les tortues, tous les poissons et plusieurs animaux du zoo pour enfants seraient décédés suite aux intempéries, et une orque, c'est Sea Shepherd qui l'avait révélé, serait elle aussi décédée. Jusqu'au tout début, Marineland dit non, mais c'est pas vrai, tout ça. Et puis le 12 octobre, ils ont été obligés d'avouer qu'effectivement, l'orque qui s'appelle Valentin est décédé. Il faut savoir que, d'après Sea Shepherd France, que les bassins, en fait, dans lesquels sont emprisonnés les animaux, sont dans des états ultra critiques suite aux intempéries. Notamment que l'oxygénation de l'eau est pas renouvelée, on y voit de la mousse blanche, de la mousse marron en surface, il y a de la boue partout, il y a vraisemblablement des hydrocarbures, et effectivement tout ça a dû pas mal blesser, voire tuer les animaux. Donc il y aura une mobilisation pour défendre les animaux de Marineland le 25 octobre prochain à Antibes, très exactement. Et il y a une demande auprès de Madame Royal, qui est la ministre de l'anti-écologie, du faux développement durable et de la consommation d'énergie, de fermer définitivement ce Marineland. Bon, pour l'instant, elle n'a pas répondu et a priori, on n'est pas quand même sûr qu'elle réponde favorablement à la demande de l'association L214. Et puis, pour terminer, une petite info BD, bande dessinée. Je ne vais pas vous parler de Astérix qui est sorti aujourd'hui, bien évidemment, mais plutôt d'une BD faite par Étienne Davodeau, hein, donc qui est très connu dans le monde de la BD pour avoir fait des BD de reportage notamment, qui sont souvent très intéressantes. Là, il s'est associé à Benoît Colomba et il sort cette BD qui s'appelle « Cher pays de notre enfance, enquête sur les années de plomb de la République ». On y voit un De Gaulle dessiné éclaboussé de sang. Alors effectivement, cette BD va partir de certains scandales de la Ve République, qu'ils appellent eux des années de plomb. Les années de plomb, c'est très connu pour l'Italie. On en parle beaucoup moins et on n'associe pas toujours à la France, mais il y a eu aussi ça en France. Donc il y a différentes enquêtes, notamment ils parlent de l'assassinat du juge Renaud, qui a eu lieu à Lyon, montée de l'observance, alors qu'il enquêtait sur le sac. Et donc ça va être essentiellement autour du sac, ce livre. Donc le sac, ça veut dire service d'action civique, ça a l'air gentil comme ça. En fait, c'est une association de fidèles du général de Gaulle, dont les actions ont flirté, voire plus, avec le grand banditisme, sous la protection de l'État français, et notamment des flics, puisqu'il y a plein de moments, des témoignages qui racontent que quand il y avait une action illégale de gens du sac, ils sortaient des cartes de flics, des cartes du sac, ils avaient des cartes officielles bleu, blanc, rouge, mais c'était écrit sac, et du coup les flics les laissaient partir. Enfin voilà, il y a tout un plein de choses racontées, il y a un entretien dessiné, alors c'est tout en BD, donc du coup c'est plus condensé qu'un livre, donc beaucoup plus facile à lire, et puis c'est en BD, donc on voit un peu les démarches de leur reportage à tous les deux, qui sont allés voir. Donc ils sont allés voir par exemple Yves Boisset, dont le film Le Juge Fayard s'inspirait de l'assassinat du juge Renaud. Il raconte tout ce qu'il a subi, les pressions, l'agression, puisqu'il s'est fait taper dessus, les menaces, la censure, puisque l'État et la justice a décidé qu'il n'avait pas le droit de mettre le mot sac dans le film. Donc chaque fois qu'il y avait le mot sac qui sortait dans le film, il y avait un bip à la place. Et pareil, ça a été tellement médiatisé que quand ça arrivait dans les cinémas, que le film était projeté, chaque fois que les gens entendaient bip dans les salles, ils criaient sac exprès. Donc voilà, ça a cassé quelque part l'interdiction. C'était l'époque de la grande époque de la censure en France, qui a quand même beaucoup diminué depuis. Voilà, on apprend plein de choses sur Focard et la France-Afrique, hein, qui ont beaucoup de liens aussi avec le SAC, et l'action syndicale, parce que le SAC a servi de milice patronale, notamment en soutien à certains syndicats patronaux comme le CSL, c'est le syndicat du patronat au sein des usines Peugeot. Et donc là, on a des témoignages de militants de la CGT qui ont travaillé dans ces usines, qui étaient Ford, puis Simca, puis Peugeot pour PSA, qui rappellent comment ça s'est passé, les agressions qu'ils subissaient, les tentatives de meurtre. Hein. On voit des militants du SAC pousser des gens devant des voitures qui roulent pour essayer de leur faire avoir un accident, voire de les tuer. Donc voilà. Et chaque fois qu'ils déposent plainte à la police, et la police ne fait pas d'enquête. Donc il y avait une vraie complicité à cette époque-là de la police avec cette association. Officiellement, c'était une association qui était le SAC. Et puis on termine sur l'affaire Boulin, ce ministre qui est retrouvé suicidé vraisemblablement par d'autres, dont l'enquête a été réouverte. Voilà. Alors du coup, à travers cette BD sur presque 200 pages, un peu plus de 200 pages, on redécouvre tous ces trucs un peu caché de la Ve République. Alors il y a eu plein de livres dessus déjà, mais là c'est fait de manière plus accessible, plus didactique, plus pédagogique, et donc je vous incite à lire cette BD si vous intéressez à ce qui a pu se passer durant ces années de plomb de la Ve République, donc par Davodeau et Benoît Colomba. Ça s'appelle Cher pays de notre enfance. Et puis, pour terminer, un petit agenda avec deux petites infos très très courtes. Un débat à la griffe autour de l'antispéciste avec justement quelqu'un de l'association L214. Donc voilà, sur l'antispécisme et le refus de manger des animaux. Et le même jour, c'est à 16h, ça sera samedi aussi, donc au Centre culturel Mésopotamie, 7 rue Mazagran dans le 7e, une conférence autour du Kurdistan syrien. Et puis, pour terminer, il nous reste 1 minute 15 pour le faire. Je voulais relancer la campagne de dons pour Radio Canu, puisque vous savez peut-être pas, mais Radio Canu a signé donc le compromis d'achat du local. Donc nous sommes partis pour acheter ce local. Ça va avoir lieu officiellement dans 2 mois très exactement. Donc d'ici là, il faut qu'on boucle le budget pour l'achat du local. Alors on a déjà rentré pas mal de dons, hein, plus de 32 000 euros de dons, c'est assez inespéré, on remercie les auditrices et auditeurs de ces dons, et si vous avez encore un petit peu d'argent, c'est le moment de le faire, puisque très rapidement il va falloir qu'on aille voir la banque pour emprunter, et qu'on, voilà, il faut boucler le budget, donc en tout cas c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que Radio Canut devrait être sauvé au moins à court terme et à moyen terme. Donc si vous avez un peu d'argent, je vous laisse aller voir sur le site de Radio Canut pour faire un virement à la plus rebelle des radios, ou pour envoyer un chèque à la plus rebelle des radios, ou pour nous envoyer des mails et nous dire que vous nous aimez quand même et que vous nous écoutez quand même, même si vous n'avez plus d'argent, hein, parce que ça peut arriver aussi. Voilà, il nous reste quelques secondes pour se dire au revoir, on se retrouve la semaine prochaine.
Ciao, bonne soirée à vous.
Et tout de suite, la petite cuillère. Je ne sais pas s'ils m'ont mis leur générique, j'ai bien l'impression